Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Sur RDWA 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr, en compagnie de Michel Gentil. Bonjour.
Bonjour.
Cet entretien pour présenter la tournée de Michel Gentil juillet-août sur l'ensemble du territoire un peu étendu. On va dans le Vercors, on ira dans le Trièves, on ira dans le pays de Bordeaux notamment, et puis bien sûr un peu partout dans le Diois. Bon Michel, est-ce qu'il faudrait te représenter un petit peu ? Qu'est-ce que tu dirais si les gens t'écoutent pour la première fois ?
C'est difficile, alors comment dire ça ? En deux mots, donc, je commence à être un peu vieux, donc j'ai de l'expérience, je peux dire ça comme ça.
Ouais.
J'ai commencé aux États-Unis avec la guitare à 12 cordes principalement, donc je fais des morceaux, je compose et j'improvise des morceaux principalement sur la guitare à 12 cordes, dont je suis avec le temps devenu un des spécialistes finalement, puisque j'ai créé une méthode qui est la première sur l'instrument.
En DVD, c'est ça, hein ?
Oui, DVD. Ouais. Bouquin et CD. Enfin, il y a un DVD, il y a deux CD et il y a un bouquin. Donc c'est une sorte de pavé qui fait référence finalement maintenant. Donc j'ai un peu cette réputation. Et puis disons que, bon, du point de vue des styles, moi je suis influencé par beaucoup de musiques différentes. J'ai commencé par les États-Unis, je suis allé en Inde 10 ans plus tard. L'Inde m'a donné vraiment cette notion du son fin, au sens fin du terme. Donc je suis vraiment un musicien passionné par le côté, par le son. Autant il y a des musiciens qui sont d'abord musiciens par le rythme ou d'autres par la mélodie. Pour moi, je suis rentré dans la musique par le son. Et j'ai dû travailler plutôt le rythme, travailler plutôt d'autres aspects sur lesquels j'étais moins doué. Avec le temps, on améliore tout ça. Donc voilà. Donc je donne des concerts, on va dire, entre Orient et Occident, principalement sur guitare 12 cordes, mais aussi sur guitare folk 6 cordes. Et puis sur une guitare indienne que j'ai modifiée, en fait, une sorte de guitare prototype, sur laquelle j'ai installé des cordes sympathiques qui vont résonner par sympathie. C'est-à-dire quand je fais un do, une autre corde accordée en do va sonner toute seule sans que j'y touche. Donc c'est le principe c'est le principe de jeu et de fonctionnement des instruments à cordes de l'Inde.
Ouais, le sitar, par exemple. Barard, le sitar, ouais.
Absolument, c'est ça. Donc j'ai adapté ça aux mains du guitariste, relativement, parce que c'est quand même, c'est un prototype, c'est jamais fini, c'est une tentative intéressante et pas finie. Il y aura d'autres gens qui vont continuer, et puis il y en a d'autres qui m'ont donné des éléments avant, enfin c'est une chaîne, hein. Donc ça c'est une chose. Et puis j'ai découvert récemment un instrument, il y a quelques années, une guitare 6 cordes, mais plus grave, qui se situe entre la basse et la guitare normale, c'est-à-dire 5 demi-tons en dessous de la guitare normale, et ça se joue exactement comme une guitare normale, mais c'est un peu plus grave. Et là, du coup, c'est une autre ambiance, ça crée d'autres ambiances.
Que c'est pas les guitares qui sont utilisées au Brésil notamment ? Il y a une espèce de guitare qui va comme ça dans le grave.
Alors oui, mais c'est pas la même. Mais tu as raison, il y a ça dans, je sais plus comment ils appellent ça. C'est une guitare avec un gros.
Un gros corps.
Un gros corps bien épais là. C'est encore autre chose. Là, c'est encore autre chose. Ça s'appelle ici, on appelle ça la guitare baritone. C'est un truc qui est apparu il n'y a pas très très longtemps. Je ne sais pas si ça existait autrefois. Ça se peut, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans le milieu des guitaristes en France, il y a quelques guitaristes qui ont acheté ça et qui commencent à exploiter cet instrument. Je crois qu'il n'est pas encore tout à fait terminé dans sa. Il y a certaines cordes qui sonnent mieux que d'autres. Enfin, il y a encore un travail de lutherie à améliorer. Je pense que d'ici 10-20 ans, on arrivera à faire un instrument parfaitement équilibré. Mais déjà, celui que j'ai, il est vraiment bien. Je suis content.
Michel Gentil est donc guitariste. Tu parlais de lutherie, là, ça m'intéresse,
oui,
qu'on s'arrête un moment dessus.
Oui.
Cette guitare prototype à cordes sympathiques,
oui,
celle-ci qui est en évolution,
oui,
quel est ton rapport toi avec la lutherie ? C'est pas des choses que tu fabriques ?
Non, malheureusement. Mais disons que je suis très en admiration vis-à-vis de ce travail de lutherie, parce que les luthiers, c'est beaucoup plus difficile d'être luthier que musicien, quelque part. Il faut être à la fois avoir la sensibilité, quand même artistique, mais aussi.
Être musicien un peu, en fait.
Quand même un minimum, ouais, c'est
ouais,
ça. Ouais. Et avoir une capacité auditive, savoir quand est-ce que ça sonne bien, quand est-ce que ça sonne moins bien. Donc il y a ça, il y a la connaissance du bois. Ces gars-là, s'ils sont bons, ben ils vont pas prendre n'importe quelle planche, ils vont pas découper un arbre n'importe où, ils vont découper à un endroit précis de l'arbre, en sachant que ça va faire ci, ça va sécher comme ça, et dans 5 ans ça sera valable et ils pourront utiliser ça pour une guitare. Il y a cette connaissance du bois très très poussée. Et puis, ils travaillent différents matériaux pour la marqueterie. Il y a le métal aussi, le bois. Il peut y avoir toutes sortes de matériaux. Et la capacité vraiment de faire quelque chose on décide que ça va sonner comme ça, et comment faire pour que ça sonne comme ça? Alors là, il faut mettre une petite barrette dans le barrage intérieur, à tel endroit plutôt qu'un autre. Enfin, il y a vraiment une notion d'intuition qui est très, très, très... Alors ces gens-là, moi je les connais beaucoup, j'en connais plein, et ils me connaissent, parce que parmi les guitaristes, disons que je fais partie de ceux qui s'intéressent le plus au son. Donc quand ils me voient débarquer, ils se disent « Ah, il va essayer ma guitare, il va me dire ce qu'il en pense ». Et du coup, je teste leur guitare, je les pousse dans les retranchements, les guitares, c'est-à-dire du moins fort au plus fort. D'un côté du manche à l'autre côté du manche, je regarde là où elle sonne à fond et je vais jusqu'au bout de ce qu'elle est capable de sortir. Et du coup, eux, moi je découvre leur caractère à travers leur guitare, comme eux me découvrent aussi mon caractère à travers leur guitare. C'est-à-dire qu'il y a donc une relation qui se fait entre le luthier et le musicien qui est extraordinaire, qui est passionnante et qui est de l'ordre de l'intuition, mais très forte. Donc j'ai une très très bonne relation avec les luthiers, en général, une très très bonne relation avec les luthiers.
Et pour cette guitare à cordes sympathiques, c'est une commande que tu avais faite
Oui, là c'est ça. C'est-à-dire que j'avais. J'ai un luthier qui est un très très grand ami qui m'a fait ma guitare 12 cordes, celle de tous mes concerts, qui s'appelle Jean-Pierre Favineau, qui habite maintenant dans les Pyrénées. Et Jean-Pierre, c'est à la fois un des meilleurs luthiers français, mais c'est aussi un des plus capables de créativité. C'est-à-dire qu'on peut arriver chez lui avec un projet complètement délirant. Et lui, il dit jamais non. Il réfléchit, il dit « Ah, on pourrait faire ci ». Il a tout de suite des idées et ça carbure immédiatement. Après, c'est faisable ou c'est pas faisable, mais il va chercher, il est ouvert à tout. Et il est capable de fabriquer véritablement ce qu'on lui demande. Alors, je lui avais emprunté une guitare qu'il n'avait jamais vendue. Elle était déjà un peu particulière. Elle avait des cordes sympathiques à la McLaughlin, c'est-à-dire des cordes sympathiques qui passent d'un bout à l'autre de la caisse, donc qui sont relativement courtes quand même. J'ai voulu mettre le fameux scié qui donne le son un peu zingant du sitar sous ces cordes-là et sous les cordes normales. J'ai voulu donc lui emprunter, il me l'a prêté. Pendant 2-3 mois, j'ai essayé. Je suis revenu en disant « Ouais, ça marche, mais il y a juste un problème, il faudrait rajouter, les cordes sympathiques sont trop courtes, est-ce que c'est possible de les faire aussi longues que les cordes normales ?» Et là, il m'a dit « Bah, il n'y a pas d'autre solution que fabriquer un deuxième manche. » Il a posé la guitare sur sa table, il a été voir derrière, il a regardé, il a dit « Bon, là, je vais faire un angle de 15 degrés, je vais rajouter un manche, là, je vais mettre une vis ici, je vais enlever le chevalet, je vais en mettre un autre. » Enfin bref, il a fait ça comme un cuisinier qui ne va pas se référer à son bouquin pour savoir 352 grammes de sucre. Non, il est au pif, mais le pif, là, il est beaucoup plus précis que le bouquin. Et il a tellement l'expérience qu'il sait très bien ce qu'il fait.
Et donc, du coup, il a customisé sa guitare qu'il ne vendait pas.
Exactement. Et c'est devenu ma guitare à deux manches, à cordes sympathiques.
Alors, les deux manches sont où? L'un en dessous de l'autre ou superposés?
Ils ne sont pas superposés, ils sont l'un en dessous de l'autre. Il y a un angle de 15 degrés, justement, entre le manche normal.
Voilà.
Et celui qui porte les cordes sympathiques, qui est un peu, donc qui monte un peu plus haut. Alors après, sur le plan pratique, c'est un peu lourd. La guitare a tendance à pencher du côté du manche, mais c'est qu'une question d'habitude, on s'habitue très bien.
Voilà, il y a cette guitare à double manche archi connue de Led Zeppelin, par exemple.
Oui, absolument. Oui.
Voilà, bon, bah, là, c'en est une autre. Et d'ailleurs, elle sert de logo sur cette tournée. C'est pour ça que je voulais qu'on focalise dessus. Si vous voyez une guitare à deux manches, c'est bien Michel Gentil. On a parlé un peu de ces guitares, de lutherie, évidemment. Je pensais notamment à la recherche du son sans cesse. Toutes ces propositions sont faites chez les luthiers. C'est des commandes que tu leur fais à chaque fois.
C'est un peu hasardeux. La guitare, par exemple, cette guitare-là, c'est un truc.
La baritone.
La baritone, ouais. C'est une guitare que j'ai en fait. C'est une histoire un petit peu particulière. Il y avait un concours lancé par le luthier qui s'appelle Frédéric Copeau, qui est un luthier de Bretagne, qui a travaillé avec un autre luthier d'ailleurs qui s'appelle Gérard Audirac. Je cite son nom parce que Gérard Audirac, je raconte juste si je peux me permettre une minute,
oui.
C'est un type extraordinaire. Il a fait des guitares classiques pendant 20-30 ans, excellente guitare classique. Et puis il a eu un jour des tas de problèmes dans sa vie. Non seulement sa femme l'a quitté, mais aussi il a eu des problèmes de santé, il a failli perdre la vie. Il s'est totalement remis en question et il a dit zut, ras-le-bol, je vais faire exactement les guitares que j'ai envie. Alors qu'il était rentré dans un moule classique qui n'est pas mauvais, hein, et il faisait des bonnes guitares. Mais là, il a vraiment explosé en disant bon, écoute, là, je vais faire ce que j'ai envie. Et il s'est mis à étudier les fréquences de vibratoires de la guitare d'une manière très scientifique. Il a lu les études scientifiques qui ont été faites sur ce domaine de près. Et il en a conclu, il a réfléchi à une façon de faire un barrage à l'intérieur. Ce qu'on appelle le barrage, en fait, quand on. Je ne sais pas si ça vaut le coup, j'explique tout ça.
Quand on ouvre une guitare, il y a des bouts de bois à l'intérieur.
Il y a des bouts de bois à l'intérieur. En fait, la caisse. La caisse de résonance, la partie qui est devant, celle qu'on voit quand on est en face du guitariste, ça s'appelle la table d'harmonie. Il faut qu'elle soit la plus fine possible pour résonner le mieux possible. Mais si elle est trop fine, elle va casser. Alors pour pas qu'elle casse, on met des barrettes, des petites barrettes à l'intérieur pour la rendre un tout petit peu plus solide, mais aussi ça va orienter, ça va changer le son. Chaque barrette va changer le son. Et lui, donc il y a tout un travail de lutherie très important sur ce barrage, on appelle ça le barrage. Et là, lui, il a réussi à faire un barrage extrêmement fin, considérant que les guitares en général ont tendance à être un peu... Elles sous-sonnent, c'est-à-dire qu'il voulait, son but, c'était de faire sonner au maximum la guitare, donner au bois la pleine liberté d'éjecter du son.
Et une réverbe naturelle, du coup, réellement, avec cette caisse, quoi.
Il estimait que la plupart des guitares ont un son qui est confiné dans la caisse. Mmh. Il s'est rendu compte qu'il y avait une pression à l'intérieur de la caisse. Et il s'est dit qu'il ne faut pas qu'il y ait de pression, puisque ça fait que le son n'arrive pas à sortir suffisamment. Et ça donne un son qui est plus sourd, du coup. Alors, il a réussi à faire quelque chose d'incroyable. C'est lui qui fait les guitares qui font sonner le plus le bois. Dans le monde, c'est lui. Sauf qu'après, il y a un dosage, c'est toujours une question d'équilibre. Si on donne le son exactement du bois à arriver au niveau où il est arrivé, le bois peut s'exprimer complètement, mais dans un seul son. Et du coup, pour le musicien, il faut des nuances, il faut pouvoir changer de son de temps en temps. Donc, il faudrait qu'il travaille, à mon sens, maintenant, un petit peu à rebrider un petit peu légèrement la guitare, mais à la façon qu'il décide lui. Et donc ça, je crois que c'est encore un travail qui n'est pas tout à fait fait, mais il a réussi quand même à faire des guitares qui sonnent de façon extraordinaire. Il s'est associé avec Frédéric Copeau. Pour Frédéric Copeau, c'est un excellent luthier, mais c'est aussi le roi de la finition. C'est le roi de la. Il a un sens de l'esthétique exceptionnel, ce qui fait que cette guitare, elle est vraiment belle, quoi. Elle est simple, sobre.
On appelle ça le haut du manche, là, le porte-clés.
Oui, alors
très design.
Très, oui, c'est ça. Il a creusé carrément à l'intérieur un grand trou, et ça fonctionne très bien. Et c'est très joli. C'est la tête de l'instrument.
Voilà,
c'est
la
ça.
Tête.
Ouais. Donc voilà, donc c'est le résultat d'un travail des deux luthiers. Et cette guitare, donc je l'ai gagnée en fait compte dans un concours. Mais moi, je suis.
Tu gagnes encore des guitares.
Non, mais c'est absolument pas normal. C'était justement mal fiché parce que Fred m'a dit bon, écoute, viens, participe au concours. J'ai dit non.
Je vais gagner.
C'est pour les jeunes, c'est pas pour. Ouais. Et puis des jeunes qui ont besoin d'argent, qui ont besoin. Moi, j'en ai besoin aussi, mais je veux dire, je suis pas à ce point-là quand même. Faut pas exagérer. Et il a insisté tellement que j'ai fini par accepter. Je me suis retrouvé en face d'un jury qui était tous des copains qui adoraient ma musique. Ils se sont dit, ouais, on ne peut pas lui donner parce qu'il vaut mieux donner à un jeune. Ils ont eu raison. Donc, ils ont donné le premier prix à un jeune. Et puis, Fred était un peu gêné. Alors, il a dit, bon, écoute, je fais un moitié prix sur... Je fais un deuxième prix où tu gagnes une guitare, mais tu gagnes la moitié du prix de la guitare. Si tu veux, t'achètes le... Et c'est ce qui s'est passé. J'ai fait ça. Comme ça, j'ai eu cette guitare, tu vois. Une autre guitare 6 cordes, tu me posais la question comment.
Oui,
c'est pas toujours des commandes. J'ai testé des dizaines, voire même une centaine ou 150 guitares de luthiers différents, et ça passait sur YouTube. Donc, ça, c'était dans le cadre du site laguitare.com avec Jacques Carbonneau qui tient ce site national passionné de guitare et de lutherie. C'est devenu un des grands experts en lutherie en France, Jacques Carbonneau.
Donc, tu étais testeur là.
J'étais testeur. Et un jour, lui, il a un petit appartement à Paris, il reçoit toujours plein de guitares de luthiers qui veulent que ça passe sur son site. Et donc, il reçoit une guitare d'un luthier qui s'appelle Benoît Lavoie, qui est un Québécois. Et il lui envoie la guitare. Il reçoit ça à Paris. Et puis, bon, il me fait tester la guitare. Je joue. Et je dis, ah, elle sonne pas mal, cette guitare. Et puis, bon, voilà qu'elle reste accrochée à son mur pendant des mois. Et au bout d'un moment, il m'appelle et il me dit, écoute, je peux pas rendre la guitare tout de suite, mais je sais pas, j'ai plus de place. Est-ce que tu veux bien la récupérer? Je dis, bien, je pense bien. Donc, j'ai emprunté cette guitare à nouveau pendant 2-3 mois. Et puis, j'ai pas pu rendre au luthier quand le luthier venait pour la chercher, j'ai dit non, je l'achète, quoi. Non, ça s'est fait comme ça, parce qu'elle était trop bien. Donc tu vois, à part ça, la guitare de Jean-Pierre Favino, la guitare de 12 cordes de tous mes concerts, celle-là, c'était vraiment, je savais ce que je voulais comme son, donc j'avais prémédité ce que je cherchais. Pour la guitare à double manche, c'est aussi le cas, c'est-à-dire je vais préméditer le son que je cherchais. Et là où Jean-Pierre a été très très fort, c'est qu'il est capable de faire le son qu'on demande, quoi. Là, c'est vraiment quelque chose de tout à fait respectable. Pas tous les luthiers savent faire ça.
Mais comment est-ce possible, du coup ? Toi, tu as une idée d'un son que tu n'as donc jamais entendu avant.
Absolument.
Et lui, moins. La distance qu'il y a entre le fabricant et le musicien.
Là, la subjectivité rentre en ligne de compte, mais aussi le côté, la relation humaine, littéralement. Ça, c'est avec Jean-Pierre Favino, en 1981, quand j'ai acheté cette guitare 12 cordes. En fait, j'étais jeune et j'étais un peu impressionnable, comme je le suis encore aujourd'hui, mais moi, hein, puisque comme voilà. Et à l'époque, je n'osais pas trop. Alors, je suis rentré dans son atelier. Il m'a dit, tu peux tester les guitares, là. Puis, il écoutait la radio tout en travaillant. Puis, au bout d'un quart d'heure, il a éteint la radio. Je lui ai dit, tiens, il écoutait un petit peu la musique. Ça l'avait un peu touché. Et puis, bon, je suis reparti. Je suis revenu une deuxième fois, rebelote. Il a éteint la radio. J'ai réessayé les guitares. Et puis, la troisième fois, je suis revenu. Et puis, au bout d'une heure ou deux, comme ça, où j'étais dans son atelier, il me dit, bon, écoute. Je crois que j'ai compris à peu près le type de son que tu cherches. Allez, viens, je t'invite au resto, puis on va en discuter. Et donc, on s'est fait un resto, et à la fin, je lui ai commandé la guitare. Et ce qui est fantastique, c'est que...
T'avais l'idée de commander une guitare chez lui ?
Oui, c'était le but.
Ouais, c'était le but quand même.
Mais je prenais mon temps, voilà, je savais que ça coûtait cher, je ne voulais pas me tromper. Je savais à peu près ce que je voulais comme type de son. Vu que j'avais une autre guitare qui sonnait tout à fait différemment, je voulais un son vraiment différent, avec par exemple très brillant. Je ne cherchais pas forcément des grosses basses, mais je voulais vraiment beaucoup de brillance dans cette guitare à 12 cordes, qui déjà naturellement a de la brillance. Et qu'elle soit fine, délicate, que je puisse avoir plein de sonorités différentes, plein de nuances de sons différents. Et donc, il m'a dit ça. Il m'a dit, écoute, il me semble que je commence à comprendre ce que tu cherches. Je me sens de la fabriquer, ta guitare. Et il m'a presque poussé. Et ce n'était pas du tout un commercial. Hein, c'est pas du tout le genre. Mais il a bien vu le truc. Et j'ai fini par dire, OK, on y va. Je suis revenu, ça devait être 9 mois plus tard, donc un accouchement. Il avait la guitare qui était posée sur son atelier. Il la prenait en photo. Et je voyais bien qu'il n'avait pas envie de la lâcher, comme un peintre qui aurait du mal à lâcher son tableau, à le vendre.
C'est sa première 12 cordes ?
Non, il en avait déjà fait plein. Mais celle-là, elle était un peu particulière. Et puis, il m'avait réservé des bois de particulièrement bonne qualité. Il lui restait plus que 2 tables d'harmonie. Il avait un copain pour qui il avait promis une table et puis il a gardé l'autre. Cette table d'harmonie lui avait été léguée par son père, lui-même luthier, Jacques Favino, qui a fabriqué lui les guitares de Brassens, John Baez, énormément d'autres gens qu'on connaît. Et du coup, voilà. Et là, ce qui est fantastique, c'est que quand j'ai pris la guitare entre les mains et j'ai commencé à en jouer, eh bien, il m'a fait mieux que mon rêve en son. Et ça, c'est inimaginable.
C'était
ça.
Un peu la question que j'allais te poser, parce que finalement, comme tu ne sais pas quel son ça fait, au final, tu te fais embarquer quand même parce que la personne a produit. Et puis...
Absolument. Mais j'avais
confiance. Ça aurait pu être mauvais, mais voilà.
Avec lui, pas possible.
Non, voilà.
Avec lui, pas possible. Et alors, ce qui est fou, c'est qu'il m'a dit, tu vas voir, cette table, elle a mis 40 ans à vieillir, mais elle n'a pas été vieillie en étuve comme ils font maintenant, parce que ça va plus vite. Elle va être plus longue aussi à se faire. Une guitare, il faut du temps pour qu'elle s'ouvre, qu'elle prenne. Il faut la jouer 2 ans, 3 ans. Et le son s'adoucit et elle prend de la profondeur. Toutes les guitares, les bonnes guitares font ça. Et alors sa guitare à lui, elle a fait ça pendant. Il m'a dit au lieu de vieillir en 5 ans, elle va vraiment prendre, se bonifier sur 10 ans. Et pendant les 10 ans, j'étais fasciné par l'explosion du son qui sortait de cette... Enfin, l'explosion, c'est pas le mot, mais la force...
Il se modifiait sans cesse, quoi.
Il se modifiait sans cesse et il se bonifiait. Il se bonifiait avec le temps. C'est-à-dire que pour moi, c'était merveilleux de découvrir ça. Je découvrais le son de ma guitare au fur et à mesure. Ça a duré 10 ans. Elle continue. Hein.
Mais ce que j'allais te demander, c'est fini, non ? Elle bouge plus ?
Elle ne bouge moins. Elle bouge moins. Après, on dit, moi, j'ai pas une théorie bien... Je suis pas sûr de ce que je vais raconter. Il y a des luthiers qui pensent qu'une guitare dure 50 ans et après, ça bouge plus. Il y en a d'autres qui pensent que ça continue d'avancer. C'est aléatoire. Je pense que ça dépend aussi de la fabrication, de la façon dont c'est fabriqué. Il y a aussi des luthiers aujourd'hui qui fabriquent des guitares en tension, comme le violon. C'est-à-dire que c'est le violon, quand les petites barrettes qui sont derrière, elles poussent ou elles tirent à certains endroits tout le temps. Ce qui fait que si le violon il tombe par terre, il explose littéralement. Alors que quand une guitare tombe par terre, elle craque, mais elle n'explose pas. Ça tombe, c'est comme un immeuble, ploum. Mais certaines guitares sont fabriquées comme on fabrique les violons, c'est-à-dire que donc elles vont sonner magnifiquement, mais pas très longtemps. Le temps que les barrettes derrière qui tordent ou qui tirent ou qui se sèchent quand elles sont trop sèches, après ça tire moins, donc du coup le son, voilà. Ça dépend donc des luthiers. Mais il existe des guitares qui ont plus de 100 ans et qui sonnent magnifiquement. Ça, j'en ai vu, j'en ai utilisé quelques-unes, donc ça existe.
Tu parlais de casser, t'en as cassé toi des guitares, t'as des regrets ?
Non, j'en ai pas cassé. Ah. Non, une fois j'ai eu un projecteur qui est tombé sur ma guitare 6 cordes américaine et le luthier Franck Cheval, ça avait pas tout cassé, ça avait quand même fendu les clisses. Là il y a Franck Cheval qui est un des meilleurs luthiers français qui habite d'ailleurs dans la Drôme, tout près d'ici, hein, vers Romans, qui a eu la gentillesse de, il m'a dit écoute, amène-la, je vais regarder. Il l'a réparé, il a pas voulu que je le paye. Bon. Il y a des gens, dans ces métiers, il y a des gens qui ont du cœur aussi, il y en a beaucoup. Il faut l'avoir pour le faire, je pense.
Michel Gentil avec nous dans le studio. On va évidemment parler de cette tournée juillet-août, notamment vous abreuvez de dates. Mais avant, quelques nouveautés, ou pas d'ailleurs, hein. Une édition de vieillerie, mais fraîche. Non, tu m'as glissé trois albums là, en fait, quand même en arrivant. Oui. Et je crois qu'on avait, on a quand même parlé plusieurs fois à cette antenne du projet Intuition avec...
avec Chamal Mahitra, percussionniste indien.
C'est ça, qui était passé d'ailleurs dans ce studio.
Absolument, on est venus ensemble.
Donc il y a un album.
Oui.
Et absolument. Puis il y en a deux autres après. Présente-nous un peu ça, ceci.
Alors le suivant date de l'année dernière, en juin dernier. J'ai, après avoir énormément joué de la douce corde, maintenant je suis connu dans le milieu de la guitare et pas que en France, comme le grand spécialiste de la guitare à douce corde. Et ça, c'est évidemment, j'ai fait tout pour qu'on écoute ma douce corde. Mais à un moment, j'ai pas envie que cette étiquette me colle à la peau sur le plan technique, parce qu'on s'en fiche au fond de la technique, on s'en fiche que ce soit une guitare comme ci ou une guitare comme ça. Je pourrais jouer de l'orgue ou je pourrais fabriquer je sais pas quoi. Ce qui compte, c'est l'intention dans la musique. Comme dans tout. Donc, quand je fais oublier l'instrument, c'est là que j'ai réussi mon concert. Quand quelqu'un me dit oh, quelle belle technique, je me dis zut, j'ai raté mon concert. Parce que s'il a vu la technique, c'est raté. La technique est secondaire au sens noble du terme. C'est-à-dire, ça arrive en seconde position après l'inspiration. Donc, j'ai complètement perdu le fil de ta question.
Présenter les disques.
Oui, c'est ça. Donc, en juin dernier, j'avais eu envie quand même de sortir un disque avec quand même plus de 6 cordes que de 12 cordes pour dire, bon, bah, j'en joue aussi, quoi, et c'est la musique qui compte. Et donc, c'est ce disque-là qui s'appelle Guitar Feelings, au pluriel, où vraiment, ce qui importe, c'est ça, c'est l'inspiration. J'ai choisi des morceaux qui sont vraiment enregistrés dans un moment un peu d'exceptionnelle inspiration. Et donc ça, c'est sorti l'année dernière. Et puis j'en ai sorti un, là, il y a quelques jours, quelques semaines, deux, trois semaines, qui, lui, a été enregistré il y a 20 ans, donc des vieux enregistrements, sur ma guitare à double manche, donc plutôt la guitare au son indien, guitare Vina, j'appelle la guitare Vina, qui, ces enregistrements ont été faits par un ami ingénieur du son venu de Bruxelles, passionné lui-même par le son acoustique, l'enregistrement le plus... fidèle possible d'un instrument acoustique, dans le temple de Minglon. J'habite juste à côté, donc on a passé quelques jours dans le temple, et il a réussi à faire un enregistrement d'une qualité vraiment exceptionnelle. Et moi, j'étais plutôt inspiré, enfin disons que sur les 8 jours, il y a eu de quoi enregistrer, de quoi, il y a eu quelques morceaux suffisamment bons pour mettre sur le disque. Donc c'est un disque principalement axé sur cette guitare à double manche, très très calme, et qui s'appelle Improvision, parce qu'il n'y a que des improvisations dessus.
Pourquoi 20 ans ?
Moi, je suis un cas, parce que j'ai jamais... j'ai compris très vite, si tu veux. J'ai eu la chance de faire un disque dans la plus grosse boîte d'édition. C'est ce qui m'a lancé. C'était Disque AZ à l'époque, en 1978, un 33 tours. J'ai fait les plus grosses émissions de radio et de télé du pays pendant un mois et demi. Pendant un mois, on m'a reconnu dans la rue. Après, on m'a complètement oublié. Et en gros... et donc, après, j'ai compris que lorsque j'ai voulu faire un deuxième disque, j'allais jamais pouvoir faire ce que j'avais envie. Et pour garder ma liberté vraiment de choix musical, j'ai décidé de faire à compte d'auteur. Donc à l'époque, j'avais acheté un copieur de cassettes, super qualité, et je vendais mes cassettes. Et puis après, j'ai évidemment, comme pas mal de musiciens, j'ai fait mon petit studio à la maison. J'enregistrais aussi mes concerts avec des très bons micros. Et puis finalement, je choisis dans ces concerts les meilleurs morceaux. Je finalise les disques. Et je l'ai fait à compte d'auteur. Donc, en fait, ça fait 40 ans que je fais mes disques à compte d'auteur. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est qu'effectivement, je suis complètement libre. Et j'ai aussi beaucoup d'amis qui m'ont déjà acheté des disques dans les années, les dizaines d'années qui ont précédé. Ces gens-là, entre guillemets, c'est un public fidèle. Donc, ils vont me réacheter quand je vais avoir un nouveau disque. Ils vont dire, bon, ça va être bien, allez, je lui prends. Donc, j'ai moyen de faire un disque, d'investir sur un disque et de récupérer mon investissement un mois plus tard, lorsque j'ai envoyé du courrier et des mails en disant, voilà, je viens d'en sortir un nouveau. Donc, ça, c'est une grande chance. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'effectivement, pas d'éditeur, ça veut dire pas de distributeur. Donc, distribution locale, distribution nationale, mais à tout petit niveau, quoi. Voire international, parce que je vais à l'étranger aussi, mais un public extrêmement réduit. Donc là, il me manquerait quand même une distribution. Je crois que je vais me mettre à chercher une distribution. En fait, je vais finir de faire quelques disques encore, parce que j'en ai quelques-uns sous le manteau, là, sous le coude, pas sous le manteau, sous le coude du manteau.
Ce qui t'en fera une vingtaine, presque.
Peut-être une quinzaine, on va dire. Une quinzaine. Et après, j'irai voir un éditeur en disant, ben voilà, si ça vous intéresse, ceci, 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 ou alors on peut faire une compilation de ce que vous estimez être les meilleurs morceaux, débrouillez-vous. Mais au moins, j'aurais gardé ma liberté d'action dans ma façon de faire. Et c'est vrai que c'est vachement important, en fait, parce qu'on s'use à faire de la musique alimentaire, on s'abîme. Et donc, on abîme notre sensibilité. J'ai jamais voulu faire ça. Je pense pas que ce soit une solution. Et si je peux me permettre un conseil aux musiciens, c'est de ne jamais accepter de faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire. C'est encore plus vrai dans ces métiers artistiques que dans un autre métier. Parce que si on commence à faire quelque chose qui ne nous correspond pas, ça devient mauvais, ça devient nul. Et finalement, on sacrifie à la médiocrité ambiante. Ça ne va pas. C'est juste incorrect. Et c'est un peu faux. Après, c'est vrai qu'il faut être courageux. Ça demande du courage de se lancer. On ne sait pas où ça va. Quand on fait sa propre musique ou quand on est dans son propre élément, on ne sait pas si la société est prête à entendre ce que nous, on est capable de faire. Des fois, elle n'a pas envie, la société. Des fois, c'est la mode, mais des fois, c'est le contraire. C'est une chance ou pas que d'accrocher la société à ce moment-là. Il faut que les deux, à la fois votre capacité, soit en phase avec l'envie de la société. Et ça, les artistes, ils ne savent jamais à l'avance. Donc, ils prennent effectivement un risque. Mais si on prend pas un risque, on fait rien de bien non plus, quoi. Donc,
ça devient chiant. C'est moins de l'art des fois. Même.
C'est moins de l'art, ça devient. Ouais. Quand c'est alimentaire, c'est plus bon. C'est plus bon.
Du coup, toi, tu vis principalement sur tes concerts. Hein,
absolument. Ouais.
Voilà, c'est ça.
Ouais, ouais,
donc, c'est l'autre secret de l'artiste, finalement, c'est de se produire.
C'est de se produire. Là, cette tournée d'été, c'est pratiquement moi qui organise tous les concerts. J'ai été voir donc les.
Oui, t'es indépendant du bout en bout, quoi.
Complètement. Je colle même mes affiches cette année. Je tente le coup, on va voir ce que ça donne. Je faisais ça il y a 25 ans dans le Diois et dans la région. Les temples et les églises. Ce sont des lieux qui, évidemment, sont particulièrement adaptés. Enfin, tous, pas tous, il y en a qui sont trop grands, qui vont faire sonner la guitare de façon pas tout à fait correcte, mais beaucoup d'entre eux sont tout à fait adaptés et à ce style de musique qui est quand même une musique d'introspection, qui est une musique, c'est pas une musique sur laquelle on va facilement danser, sinon de la danse contemporaine. Il y a des moments un peu excités, mais globalement, c'est une musique douce, c'est une musique calme. C'est la musique qui permet de se reposer sur son énergie profonde. Et d'ailleurs, à la fin des concerts, je m'en rends compte, les gens, ils discutent entre eux comme s'ils se connaissaient depuis 10 ans. Quoi. Tout est posé, tout le monde est tranquille, calme, la vie est belle, c'est doux, c'est la gentillesse, au sens noble du terme.
Et, le donc, voyage de l'esprit, un peu aussi.
Oui, c'est ça. Ouais. Alors, il y a de la profondeur là-dedans. Donc, ces lieux-là sont assez adaptés. Parfois, ils sont un petit peu trop froids. Ça, c'est... Mais bon, moi, je rajoute un peu de chaleur. Après, je cause avec les gens. Et puis, c'est donc une tournée qui va être très agréable. Par contre, je me rends compte que pour la mettre au point, il m'a fallu 2 mois et demi de temps de travail à temps complet pour organiser 30 concerts sur 2 mois. Alors qu'il y a 25 ans, il me suffisait de 15 jours. Tout est plus compliqué. Il faut rencontrer des gens, il faut des assurances, il faut des contrats, il faut vérifier les lieux, il faut rencontrer les mairies. Ça devient... Tout est beaucoup plus compliqué. En fin de compte, c'est moins spontané. À force de... Ça, je me fais la remarque. Je pense que tout le monde, tous mes auditeurs dans leur vie, dans leur métier ont dû le constater. Pour faire une action aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile que pour faire la même action il y a 20 ou 30 ans. Tout est beaucoup plus lourd. Il faut justifier quand on est en enseignement, il faut justifier de ce qu'on a fait dans la journée. Quoi. Bon, on perd un temps fou à faire ça, on a autre chose à faire de plus important. Il suffit de le faire bien, puis voilà, il faut qu'il y ait une confiance. Mais comme il n'y a plus cette confiance et qu'on veut tout à l'américaine vérifier, contrôler, etc., évidemment, ça pousse à l'inefficacité. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que cette tournée va être réellement rentable, considérant qu'il faut que je gagne assez d'argent pour payer les 3 ou 4 mois de travail que j'ai fournis autour. Si c'est le cas, j'en organiserai une autre l'année prochaine, pas seul d'ailleurs, avec d'autres guitaristes que j'ai envie de montrer, d'amener dans la région. Si c'est pas le cas, je serai obligé de... Je ferai autrement. Voilà.
On suivra ça donc. Michel Gentil, encore avant de parler de cette tournée, je voulais qu'on revienne justement sur les différents projets que tu as eus. On en parlait d'un avec chez Malmatra, par exemple.
Oui.
Mais tu as comme ça pu enregistrer ou faire des concerts avec tout un tas de musiciens.
C'est vrai.
Et il y en a un qui, localement, dont on attendrait un disque, c'est avec Alex Aiguille.
Ah oui, tu as
quand
raison.
Quand est-ce que vous allez faire
excellent,
un disque?
Excellent, tu as raison.
On m'a demandé de te la poser cette question, c'est de dire oui, parce que c'est quand même un truc, on vous voit de temps à autre, tous les deux vous êtes dans le territoire.
Oui, oui, c'est vrai.
Et tous les deux internationalement connus dans vos disciplines. Oui, donc oui. Alexei est au violon. Hein.
Oui, c'est ça, extraordinaire violoniste.
Russe, donc. Et vous jouez comme ça pour un public, d'averti de dernière minute.
Oui, t'as raison.
Toujours au Café Andarta.
Au Café Andarta. Non, mais c'est parce que bon, le Café Andarta, c'est quand même le lieu où on peut vraiment essayer des choses nouvelles avec un grand plaisir. Et Valentina est quand même une personne géniale. Elle a une sacrée sensibilité parce qu'elle nous a repérés tout de suite. Quoi, tu vois, et elle nous adore. Mais le problème avec Alexis, il est très simple. C'est qu'il est tout le temps parti en tournée en Russie. Et il revient ici. On se voit, on se dit, bon, alors, on va chercher une date. On va organiser une date. Bon, alors écoute, tu me rappelles. Et puis hop, il est reparti dans ses concerts. On n'arrive pas. Et là, je viens de voir, je sors de chez Valentina. Et on se disait la même chose. Donc, Valentina et moi, on se dit, il est insaisissable, le Alexis. Il fait beaucoup de choses. Il fait énormément de choses. C'est même, moi, je l'appelle le cow-boy de Diwa. Parce que c'est un monsieur qui n'a pas une mine. On ne le voit pas de loin quand on ne fait pas attention. Mais en fait, c'est monstrueux ce qu'il fait. C'est monstrueux. À la fois sur son violon, mais aussi physiquement. Parce qu'il joue sur des grandes scènes dans la taïga perdue. Il part en plein hiver, il fait moins 40. Si le camion qui le conduit de l'aéroport à l'endroit du concert tombe en panne, ils sont tous morts. Donc il prend vraiment, il a une vie absolument délirante, bien plus délirante que la mienne finalement. Ce qui fait qu'il est plus insaisissable encore que je ne le suis. Donc on a du mal à se trouver, c'est juste ça. Mais le projet de disque, moi j'ai enregistré.
Je te propose d'aller en Russie pour enregistrer là-bas quand il est entre deux concerts.
Surtout que lui, quand il me voit, il me dit bon, quand est-ce qu'on joue ensemble ? C'est pas qu'il a pas envie, toi. On a envie tous les deux, mais on a du mal à se trouver. Quoi. On est tout le temps. Mais on va y arriver.
Bon, bah c'est une commande locale. Promis, il faut dans les 15 disques qu'il y en ait un avec lui.
Bon, écoute, ça sera fait, je te promets. De toute façon, j'en ai envie depuis 2-3 ans. Je me dis, il faut qu'on le fasse.
Alors ça fait bientôt 30 minutes qu'on discute. Oui. Si on écoutait sonner cette guitare baryton, donc.
Avec plaisir.
Avec plaisir. Avant de se lancer dans cette tournée de Michel Gentil sur juillet et août, avec une bonne vingtaine de concerts. Ouais.
Une vingtaine, oui, c'est ça. Oui.
Alors je vais rapprocher un micro. Thank you.
ces guitares graves, comme ça, un petit peu graves, elles ont énormément plus de sustain que les guitares normales. Quand le sustain, c'est la durée d'une note. Quand vous jouez, combien de temps, si vous arrêtez de jouer, combien de temps elle va sonner cette note ? Et bien, sur une guitare baritone, c'est à peu près 10 fois plus long que sur une guitare normale.
On pourra calculer, mais les gens, enfin les auditrices solitaires le feront, mais je pense que là, il n'y avait pas loin de 30 secondes.
Oui, ça ne m'étonne pas. Oui, c'est ça. Ce qui est impossible sur une guitare habituelle. Donc, c'est quand même un instrument assez différent, finalement.
L'autre particularité, c'est que, contrairement à toutes les guitares, tout le monde se dit une guitare classique, oui, il y a au milieu de l'endroit où on gratte les guitares, le cœur, le trou.
La rosace.
La oui. rosace, par là où le son sort. Et oui. là, pas du tout, ça sort sur le haut.
Oui, alors c'est la moitié, pratiquement sur le haut de la caisse, près du manche, et puis aussi sur une partie de l'éclisse. En fait, c'est un trou qui... En fait, c'est ça le travail du luthier Gérard Audirac dont je parlais. Lui, il s'est rendu compte que quand on mettait la rosace, comme on le fait d'habitude sur une guitare, ça limite la sonorité des graves, parce que les graves sonnent à un endroit de la table d'harmonie, de la caisse, l'endroit le plus gros. C'est logique d'ailleurs. Et la rosace casse un petit peu cette vibration parce qu'elle est sur cet endroit. Donc du coup, il a eu envie d'essayer de la mettre ailleurs, de la pousser un peu dans un sens ou dans l'autre. Il a fait plusieurs essais. Et finalement, l'endroit ici n'est pas trop mal choisi. J'ai remarqué que d'autres luthiers font ça, même en musique classique. Bien sûr, d'ailleurs, il fait toujours des guitares classiques. Et j'ai l'impression, je peux me tromper, mais que c'est une évolution de la lutherie guitare qui pourrait bien rester dans le temps. C'est possible. Parce que c'est effectivement une amélioration au niveau du son.
Donc, c'est en haut du manche, en fait, finalement, sur la tranche, que maintenant on voit le trou. Elle est très jolie cette guitare et merci pour ce morceau. Ça, c'est donc ce qu'on pourra entendre par exemple pendant ta tournée.
Alors voilà, il y aura des morceaux doux comme ça. Il y aura aussi des morceaux en 12 cordes qui eux sont beaucoup plus dans les aigus. La 12 cordes possède des aigus que n'a pas la 6 cordes habituelle. Donc ce sera un instrument très aigu avec des harmoniques très très aiguës, très brillant, très scintillant. Donc il y aura cette guitare scintillante. La guitare baritone qui, elle, est vraiment dans les basses, comme vous venez de l'entendre. Et puis, la guitare folk 6 cordes que tout le monde connaît. Plus, donc, cette guitare indienne qui, elle, est encore plus, elle, dans les aigus, avec des harmoniques et de la résonance par sympathie.
Donc, en fait, j'ai
quatre guitares. Ouais. Elles sont derrière moi, ça fait un petit décor. Elles sont debout derrière moi. Et après, ben, selon les situations, je prends l'une ou je prends l'autre et je construis mon concert comme ça.
Tu pourrais ne pas en jouer dans un des concerts, une, par exemple, qui passerait à la trappe. Ça t'est déjà arrivé ?
Oui, il y en a une qui est déjà passée à la trappe, mais elle va revenir parce que le problème, c'est que je ne peux pas en emmener trop. Après, il faut un camion. Ça devient une folie. Quoique, il y a des gens qui font pire que moi. Mais bon, bref. Mais c'est vrai que j'ai joué avec 5 guitares. J'avais une deuxième guitare indienne. Je l'ai laissée un peu tomber pour l'instant, mais je vais y revenir. Oui, je pourrais. Disons que. Après, comment dire ?
Même dans le cadre du concert, je parlais. Est-ce que c'est pas forcé que toutes les guitares soient jouées ?
Non, c'est pas forcé. Voilà. Non, c'est pas forcé. D'autant plus que, comment dire, avec le temps. J'ai été suivi par un maître turc de l'improvisation qui s'appelait Ali Dede Altintash, qui est décédé il y a une dizaine d'années. Et mon rêve de musicien, c'est d'être capable d'improviser vraiment au maximum dans le concert. Pour moi, la grande musique, c'est vraiment ça. C'est la musique de l'instant présent. Mais c'est en même temps ce qui est plus difficile, évidemment, puisqu'il faut une vie pour apprendre à construire ses improvisations et faire que dans l'instant, ça se construise. C'est un travail qui demande une vie. Et je pense qu'une vie ne suffit pas. Il y aurait une dizaine de vies, ça commencerait à être intéressant. Donc je me suis quand même amélioré avec le temps de ce côté-là. Et avec cette amélioration-là, cette capacité que j'ai, qui est meilleure qu'autrefois, de construire valablement mes improvisations, elle s'améliore, ça m'arrive de partir sur un morceau avec un thème qui est peut-être un peu prévu quelquefois à l'avance, des fois pas trop, des fois plus, et d'improviser. Quand ça se passe bien, ben, le morceau il va durer 10 minutes. Donc du coup, mon programme de concert, il n'est pas respecté. Donc je fais ça maintenant un peu sur le moment, et j'arrive aussi à improviser plus ou moins la construction de mon concert. Mais ça, c'est vraiment l'expérience, c'est l'habitude, c'est les dizaines d'années de concerts derrière moi qui m'ont appris à m'améliorer là-dessus, quoi. On va dire ça comme ça.
D'où l'intérêt aussi d'avoir plusieurs guitares, hein. C'est quelque chose qu'on évoquait tout à l'heure hors antenne, alors on pourrait le mettre à l'antenne maintenant, de passer de l'une à l'autre. Tu te lasses parfois aussi de travailler toujours avec les mêmes
Il y a des périodes, oui, il y a des périodes. J'ai eu une période il y a 2 ans où j'ai joué la 6 cordes folk. J'ai presque laissé tomber la 12 cordes pendant 2-3 ans. Et puis là, je me suis mis à jouer à fond cette guitare baritone. J'ai commencé à composer des morceaux dessus et à me sentir à l'aise suffisamment pour jouer un concert. Donc effectivement, en découvrant ce nouvel instrument, ben, j'ai un petit peu délaissé ma guitare à 12 cordes. Mais c'est pas grave, ça reviendra. Et puis il y a des Oui, on a des périodes dans la vie. Faut... De toute manière, si c'était toujours pareil, tout le monde s'embêterait, et moi le premier, ouais. Et le public aussi. Donc il faut toujours...
Et tous les autres wesh. Tous les autres, le luth, le ukulélé.
Tout est bien, non, mais... tout est bien, on ne peut pas tout faire non plus, après c'est
non,
ça.
Non, c'est vrai, mais tu les as grattés quand même pour voir si c'est un instrument à cordes.
Ukulélé, j'ai adoré.
Ah ouais.
Ah, c'est super. Et en plus, c'est assez proche de la 12 cordes, parce qu'il y a une corde aiguë placée en plein, de l'autre plein côté milieu. Du manche, ouais, comme pour le banjo. Et ça, c'est aussi proche de la 12 cordes. Le 12 cordiste, il connaît cette situation géographique des cordes qui sont différentes des aigus en plein milieu des basses. Donc, il y a une accointance avec le banjo aussi. Non, sinon j'ai beaucoup joué d'autres instruments comme la guimbarde, je continue d'en jouer.
Oui, c'est vrai.
La guimbarde, des flûtes à bec en terre cuite aussi, j'adore ça. Mais bon, en ce moment, je suis plus concert guitare, donc je prends mes guitares, mes quatre guitares, j'emmène quand même 3-4 guimbardes pour faire un petit changement en cours de route pour pas lasser. Mais ce qui est bien dans ce concert aussi, c'est ça, c'est qu'on change de sonorité. Les gens me le disent, ça change beaucoup de sonorité, donc ça change d'univers. Et comme je suis influencé par des univers musicaux différents, je passe d'un style à l'autre sans m'en rendre compte moi-même d'ailleurs, parce que c'est tellement intégré dans mes compositions que j'y pense même pas, j'en suis pas conscient. Mais par contre, des amis me disent, ouais, là t'es un peu plus blues, ou là t'as fait un petit peu plus indien. Donc c'est quand même assez varié dans les styles. Enfin, c'est un concert, je dirais, où on découvre des guitares comme on n'a pas l'habitude d'en voir. Elles sont toutes particulièrement intéressantes. Et aussi un univers qui est le mien, mais le mien, évidemment, construit sur toutes les influences que j'ai pu avoir. Mais il est vrai, il faut le dire aussi, que je fais partie des rares musiciens qui ont réellement leur univers. Et c'est une minorité parmi les gens qui vivent de musique, qui est des musiciens qui vraiment ont inventé leur univers. J'en ai aucun mérite, parce que ça m'est venu tout de suite. J'ai pas eu besoin de le chercher, je me suis trouvé tout de suite, mais c'est la vérité, il faut le dire quand même, parce que sinon
il y a un son Michel Gentil, oui.
Il y a un son et un style.
Alors quand c'est l'artiste qui le dit lui-même, on pourrait croire à de l'ego démesuré, ouais, mais non. Ça a déjà été dit par d'autres et c'est vrai, d'album en album il y a ce son.
Oui, bon, après l'ego dans cette affaire ouais. C'est intéressant d'en dire un mot parce que moi je vois ça comme ça, et je suis pas le seul, hein. Pour moi, un artiste c'est pas quelqu'un qui crée ex nihilo quelque chose. Ça, c'est la conception occidentale qu'on a un peu exagérée. Je crois que c'est pas du tout vrai. En réalité, on essaie de se mettre en état d'être assez transparent pour pouvoir être transformateur. Et c'est-à-dire, l'ambiance est déjà là. Et nous, notre rôle, c'est d'être capable, avec notre technique et notre ouverture d'esprit, notre intuition, notre inspiration, de choper ça et de le traduire en notes de musique. Donc en fait, on n'est pas des créateurs, même si on invente un style. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas... Et quand l'ego commence à diriger la chose, c'est plus du tout bon. Mais plus du tout, du tout. Donc soit c'est humilité, et c'est ça qui nous permet d'avancer. D'ailleurs, tous les grands musiciens que j'ai pu rencontrer sont vraiment des gens dans l'humilité. Et tous ceux qui ne le sont pas, ce n'est pas des grands musiciens. C'est des bons, mais ce n'est pas des grands. Enfin bon, je fais ce distinguo.
À bon entendeur. Michel Gentil, en tournée, juillet, août. Allez, on donne les dates, comme ça, à fond la caisse.
À fond la caisse.
Ouais, ouais. Alors donc, comme tu le disais, c'est soit des petites chapelles, soit des églises, soit des temples.
Voilà.
Et on commence à Sainte-Croix le 17 juillet.
Voilà, la chapelle de Sainte-Croix. En réalité, ça va être dans le temple. Sainte-Croix, c'est particulier parce qu'ils ont un temple-église. C'est le même,
oui,
bâtiment. Ils se sont partagés. Je crois que c'est unique en France. Et là, ils sont en train de faire des travaux dans la chapelle. Donc, ça va être dans le côté temple. Mais enfin, ce n'est pas difficile à trouver. Donc, ça, c'est le 17, hein, 20h30. Le lendemain 18 juillet, donc à l'église de La Motte-Chalancon, qui est une église qui sonne magnifiquement. Elle est super bien placée. Et c'est magnifique. Donc, l'église de La Motte-Chalancon, 21h. Le lendemain, c'est l'église de Vassieux en Vercors, sur le Vercors, donc 20h30 cette fois. Et là, il y aura aussi une amie, Benjbel, qui est une amie parisienne qui se lance dans la chanson depuis quelques années, qui est semi-professionnelle, on va dire, mais qui a beaucoup de cœur. C'est une dame que j'aime beaucoup, beaucoup, parce qu'elle elle donne sans... Voilà, les premiers degrés, elle y va, elle joue et elle donne tout ce qu'elle peut, et évidemment, le public le lui rend bien. Le 23 juillet, je joue au Temple de Mince, 21h. Le 25, au Temple de Valdrome, 21h. Le 26, au Temple de Minglon, chez moi, à 21h. Le 27, alors c'est autre chose, Contes et Musique avec Patrice Marie. Patrice Marie, c'est un ami berger qui a des choses à dire sur le plan... il a écrit un livre de contes.
qui se vend d'ailleurs énormément, et qui est un peu une façon à lui d'exprimer ce qu'il ressent du monde avec, disons que c'est un conteur indigné, il se définit comme ça, conteur indigné, et moi j'adore être avec lui, c'est un ami de longue date, et je joue, non pas derrière le conte, mais on est un peu en duo, parfois je joue seul, parfois il fait son conte seul, et puis je joue en même temps que lui quand il parle, parfois, donc on a un spectacle là, qui va se jouer à la salle des fêtes de Lucelac Croix-Haute le 27 juillet prochain à 21h. Ensuite, le 29, alors c'est en Ardèche, c'est une dame extraordinaire qui s'appelle Zarina Khan, qui a d'ailleurs un prix Nobel. C'est une écrivain qui a fait énormément de choses pour l'art. Et l'art, par exemple, là, récemment, elle fait des stages d'improvisation théâtrale. Elle a fait ça avec des migrants. Et elle fait jouer, donc en 3 jours, ils écrivent une pièce. C'est l'improvisation théâtrale. En 3 jours, ils écrivent une pièce. Et comme elle me dit, le pire, c'est qu'on n'est pas pressé. Elle arrive à faire ça. Et cette pièce est jouée donc elle un peu partout. Et là, ça va être le 29 juillet. Elle va terminer un de ses stages. Et moi, je vais donc au dépoté, comme ça, quand ils vont faire leur spectacle le 29, je vais mettre ma guitare sur leurs paroles. Et ensuite, je ferai mon concert. Alors ça, c'est le 29. Et ça se passe à Mirabel, en Ardèche. Donc ça s'appelle le Art Café. A-R-T, plus loin K-A-F-E. Donc si vous regardez sur Internet, et si vous tapez Zarina, Z-A-R-I-N-A, Khan, K-H-A-N, vous allez voir, c'est une dame absolument incroyable. Absolument incroyable. C'est une grande personne. Le 31, alors là, c'est une tentative avec Céline Perroux à Clel, donc en Isère. Céline, on ne peut pas parler vraiment de yoga, mais elle aime bien le mouvement, elle travaille le mouvement et la concentration en liaison avec ce mouvement. Et donc finalement, il va y avoir une petite heure avec elle, ou un petit 3/4 d'heure avec elle de mouvement. On n'est pas obligé d'y aller, mais on peut. Et puis, ça va nous préparer au concert. Puis ensuite, moi, je fais mon concert. Ça, c'est par contre, c'est à 18h à Clel. Je continue ?
Oui,
mois d'août. Alors, 1er août, je joue à l'église de Boulk à 21h, Boulk. Le 3, au temple de Pontet à 20h30. Le 4, je retourne chez Zarina Khan à l'Art Café de Mirabel, donc 07 170 pour le code postal en Ardèche à 21h. Cette fois, je fais mon concert tout seul. Le 5, c'est un peu particulier. À Herbouilly se trouvait le quartier général de Jean Prévost, qui était un des grands, qui était un des fondateurs du maquis du Vercors. C'est lui qui a l'idée, et un des grands chefs de ce maquis. Il a été fusillé à la sortie quand les Allemands sont arrivés. Et c'est une sorte de... Bon, là, je fais un petit concert de 20 minutes à l'occasion d'un rassemblement en mémoire de Jean Prévost et de la Résistance. Je pense que c'est vraiment le moment de faire attention à cette mémoire de la Résistance. Donc ça, là, je serai à 14h. Ça, c'est un sens pour moi très, très précis. Bon, et puis, il se trouve que j'ai connu sa petite fille, enfin, etc. Le 8 août, je joue mon concert au Temple de Bourdeau à 21h. Le 9, à l'église de Buis-les-Baronnies, 21h. Le 10, à Die, chez Patrice, Saïd et Sarah, ça sera à 21h. Donc c'est un concert là à domicile.
Voilà.
Ouais. Le 14, je joue à l'église de Lucelac-Croix-Haute. Et le 22 août, au temple de Mince. Voilà.
À 21h, les deux derniers.
21h, les deux derniers.
Ben voilà, quelle grosse tournée. Ouais, ça fait beaucoup. Non, mais c'est bien. Puis il y a plusieurs projets différents quand même.
Oui.
Ce n'est pas des fois que ton concert.
Non,
même
non.
Si
non.
On peut s'en satisfaire et s'en délecter.
Oui,
sûr.
Oui, mais tout est bon. De toute façon, j'adore jouer seul parce qu'on a une liberté qu'on n'aura jamais sans. Et quand on est seul, on n'est pas égoïste. On joue pour l'univers entier. Quand on joue avec des amis, on joue pour les amis. Et c'est tout aussi valable. S'il y a un autre registre de musique, tout est bon en fait. Tout est bon. Je prends tout moi.
Michel Gentil, on te retrouve sur Internet.
Oui, alors j'ai un site, il suffit de taper Michel Gentil, hein, on va tomber sur mon site, c'est michelgentil.com, Michel Gentil en un seul mot. Gentil s'écrit I-L-S à la fin, G-E-N-T-I-L-S. Donc si vous tapez pas trop fort quand même, hein. Vous allez tomber sur moi. Et bon, il y a plein de vidéos sur mon site qui vous donneront une idée du style. Et puis les dates sont aussi indiquées sur le site, bien sûr.
On a fait le tour, en tout cas pour cette fois. On se retrouve sur cette antenne avec plaisir quand tu veux et pour d'autres actualités. Merci Michel, à bientôt.
Eh ben merci à vous, hein, de m'accueillir encore une fois.